Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle Regarde ailleurs. Regarde ailleurs, c'est cette envie d'élargir son regard, sa vision sur le monde, à travers des expériences, des parcours de vie. Donc j'aime bien donner la parole à des écrivains, des voyageurs, des réalisateurs. Là, on se retrouve en Alsace sur un festival avec Steve et Audrey. Donc on est sur le festival Van Life, où tu as des vanlifers. Donc voilà, on va rentrer un petit peu dans cet univers avec vous. Donc je sais que vous, vous faites le choix aussi de vivre dans votre camping-car. Donc j'aimerais bien revenir en arrière. Comment tout ça a commencé? Qui a eu cette idée? À quel moment vous avez voulu quitter votre vie sédentaire pour vous mettre sur les routes de France et d'Europe?
Alors c'est assez étonnant parce que en fait on n'a pas tout de suite vécu dans le camping-car. On a démarré il y a 8 ans maintenant. On voulait partir en voyage, on en avait un peu marre de notre routine. Ça nous convenait plus et on avait toujours dans le coin de notre tête l'envie de partir en Australie. Et on ne sait pas pourquoi, quand on a fait des recherches, on s'est rendu compte qu'aller en Australie pendant un an, ça allait nous coûter plus cher que de faire un tour du monde. Et on s'est dit, mais en fait, on est fou, il faut qu'on fasse un tour du monde. Et finalement, de fil en aiguille, en partant, donc on est parti en sac à dos pendant un an, et on s'est retrouvé bloqué volontairement en Asie, parce qu'en Asie, il y a tellement de choses à voir. Et on n'a pas fait un tour du monde, finalement, on a fait un tour d'Asie. Et c'est là qu'a commencé notre étrange aventure.
Je pense que le fait d'être parti avec un billet aller et pas de billet retour, ça a forcément impulsé l'idée, ça c'est clair. Parce que après l'Asie, il y a un an, j'étais censé revenir à mon travail à Colmar et je ne suis jamais revenu. J'ai démissionné à distance et on est resté. On était en Indonésie à ce moment-là, on a rencontré les personnes qu'il fallait et on a atterri en Australie pour faire le PVT pendant 2 ans.
Donc là, c'était un jeune couple en fait, vous aviez cette envie de voyager sur les routes du monde, donc il n'y avait pas encore de van ou de camping-car, c'était vraiment le sac à dos, aller à la rencontre de cette humanité, du monde.
Ouais, c'est ça. À ce moment-là, on ne savait pas encore qu'on allait vivre dans un camping-car, ça c'est clair. Par contre, avec Audrey, on est ensemble depuis 18 ans.
Alors, avec Audrey. Ouais.
Alors, aujourd'hui, on est ensemble depuis 18 ans. Donc, si tu veux, quand on est parti en Asie, ça faisait 10 ans qu'on était ensemble.
Vous avez quel âge ?
35 et 37.
Donc, vous êtes. Ah ouais, waouh, au collège, quoi.
Bon, on s'est connus à l'âge de 18 ans, en fait.
Ça remonte ça loin. Et quand on est arrivé en Australie, de base, on s'était dit, en fait, on continue notre tour du monde un peu fou et on va juste prolonger l'aventure en travaillant en Australie pour pouvoir avoir plus de budget. Parce que c'est vraiment, du coup, le problème du budget qui nous posait problème. Et du coup, en arrivant en Australie, en fait, on a trop aimé. Tu sais très bien. L'Australie, c'est l'aventure. On a vécu un an, du coup, dans un 4x4 avec une tente de toit. De base, ça devait être juste notre véhicule pour travailler. Pouvoir après partir sur un autre pays, en fait. L'Australie devait être juste une étape avec un tout petit peu de voyage. Et on a tellement aimé, les personnes là-bas nous ont donné envie vraiment de découvrir l'Australie, que c'est là qu'on a fait le tour. Et après, on a changé pour un fourgon. Et on s'est dit, ah là là. Et c'est là qu'on a découvert la van life, en fait. On s'est dit, mais c'est génial. Tu poses ton van, tu ouvres le coffre et t'es chez toi, quoi. Et on a entamé notre deuxième année.
Après, le pays, comme tu le sais, est hyper grand en Australie. Du coup, tu peux te retrouver en 2 ans. On n'a pas forcément rencontré beaucoup de Français parce qu'on n'est pas resté non plus dans les villes et on était toujours à l'inverse des saisons pour trouver suffisamment de travail. Donc, on était beaucoup plus avec les locaux, les Australiens, qu'avec les Français.
Le voyage, quand il a commencé en Asie, donc là, c'était sous vos fonds propres. Hein, c'était d'abord, dans un premier temps, les économies, avant d'avoir envie de rendre le voyage plus long, plus durable, où là, il fallait effectivement trouver un modèle économique qui permettait de continuer.
Exactement. Et c'est pour ça quand on arrive en Australie, déjà, comme me disait si bien Steve avant, en Indonésie, on nous a donné envie d'y aller parce qu'on a appris que le PVT existait et il nous permet justement de concilier voyage et travail. Donc, on se disait que ça pouvait être une très bonne solution, finalement, pour renflouer les caisses et prolonger peut-être 2-3 mois, peut-être 1 ou 2 ans supplémentaires en fonction du travail qu'on allait trouver là-bas. Le projet voyage et changer de continent peut-être.
Quand on commence à voyager comme ça, sur du long cours, avec un billet aller, comme tu disais Steve, sans forcément savoir quand est-ce qu'on revient, les retours sont souvent compliqués et ça transforme complètement nos vies pour la suite. On a du mal à se réinsérer dans un système avec des horaires cadrés. Et voilà, comment est-ce que vous vivez ça? Parce que se pose aussi toujours la question, quand on est jeune, c'est facile, mais plus on avance en âge, plus se pose la question de comment fait-on pour continuer à trouver ce modèle qui nous permet de vivre de cette passion.
Eh bien, justement, on se pose encore la question. Je crois qu'on n'a pas fini de se surprendre soi-même aussi quand on voyage, parce que il y a eu d'abord l'Asie, ensuite il y a eu l'Australie, ensuite on est revenu, il y a eu la période Covid d'incertitude complète, où on était sur un projet d'expatriation, puisqu'après après l'Australie, on était rapidement allé en Asie, on avait trouvé un projet pour travailler et s'expatrier. Sauf qu'effectivement, comme il y a eu la Covid, on n'a pas pu le faire. Donc on est revenu en France sans l'avoir prévu, dans une période de Covid où tout le monde avait peur, sans revoir nos familles, sans avoir de projet de s'installer. Donc ça a été difficile. Et là, on s'est remis le plus en question dans toute notre vie. Et après, c'est là qu'est venu le fait qu'on a pris le camping-car. Et encore une fois, ça a été encore une autre vie. Et j'ai l'impression que c'est tout le temps comme ça. Là, on est encore en train de se poser quelle sera la suivante. Parce qu'on ne peut plus se poser. C'est quasiment impossible. On a envie, en fait, de faire d'autres choses une fois qu'on est parti. Et c'est très rare que les voyageurs qui ont vécu des très grandes expériences sur soi-même et avec les autres aient envie de retrouver une vie d'avant.
On a eu beaucoup de... Après la période Covid, en fait, quand on est revenu de 3 ans de voyage, c'était une année assez difficile pour nous. Très, très noire. Pas dingo niveau mental. Parce que, si tu veux, on a perdu beaucoup d'amis à ce moment-là. Parce qu'en fait, ça faisait trop longtemps en fait, qu'on était partis. Et on n'était plus du tout les mêmes quand on est revenu. Eux, ils s'attendaient à ce qu'on soit les mêmes personnes à l'époque où on soit partis. Et il y a eu un fossé énorme entre nous. Donc ça a beaucoup facilité les choses. Et le fait de se dire, notre place en Alsace, on l'a plus et on part.
Mais c'est vraiment en Alsace? Est-ce que c'est lié à la région? Parce que j'entends ça, hein, quand tu reviens, effectivement, toi, t'as cheminé différemment que ton groupe de potes qui sont peut-être restés au même endroit et qui n'ont pas vécu tout ce que t'as vécu. Donc forcément, c'est compliqué après de pouvoir se retrouver. Enfin, c'est à toi de t'adapter, parce qu'eux ne pourront pas... Alors, c'était comme en Australie, tu ne peux pas raconter 2 ou 3 ans de vie remplis d'expérience à quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Mais voilà, donc tu dis, on ne retrouve pas notre place ici. Donc ça, j'entends dans le contexte social, mais le contexte géographique, pourquoi vouloir quitter l'Alsace?
Moi, j'ai pas forcément envie de la quitter, parce que c'est vrai que j'aime quand même ma culture, j'aime la gastronomie, les paysages. À chaque fois qu'on revient dans la vallée de Tann, c'est vrai qu'on dit souvent on retrouve nos montagnes, même si pour ceux qui viennent des Alpes, c'est pas des montagnes. Mais pour nous, c'est nos montagnes. On y a randonné, on a découvert plein de choses, on connaît tous les sentiers, on y a bivouaqué. C'est vrai qu'on a fait pas mal de choses. Et quand on compare à d'autres régions de France où on peut pas randonner, c'est vrai qu'on a quand même cette liberté en Alsace, quand t'es piéton, de faire pas mal de choses. Il y a des belles pistes cyclables, on peut se baigner encore dans les lacs. C'est vrai qu'il y a quand même une multitude d'activités nature à faire. Donc ça me manquerait énormément. Mais après, c'est vrai que d'un point de vue social, on sent quand même qu'on est dans le nord, l'Alsace, tu vois. Les gens sont moins avenants, sortent moins, sont assez pudiques, finalement. Et quand on a vécu dans des pays où on te donne énormément, sans que tu aies besoin de demander, tu es toujours aussi, je pense, dans l'attente de l'échange, dans l'attente de la rencontre, dans l'attente de l'expérience. Et c'est vrai que c'est plus difficile dans la région Alsace. Les gens ont plus tendance à attendre qu'on leur raconte les choses. Ils vont rarement poser les questions. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a vécu. On nous demandait rarement, alors c'était comment? Il n'y a pas ce naturel à engager des discussions profondes même. Hein. Ouais, il y a cette pudeur qui nous dérange un peu dans la région. Mais après, voilà, l'avantage aussi de l'Alsace, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on s'est fait beaucoup d'amis qui ne sont pas alsaciens, qui sont en Alsace aussi.
Qu'est-ce qu'on fait quand on revient pour essayer de voler de ses propres ailes?
Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de trouver un job. Forcément, après 3 ans, tu te doutes bien que nos fonds sont perdus. Hein, on n'a plus beaucoup d'argent. Du coup, c'est retrouver un travail. Après 3 ans d'absence, dur de trouver un travail parce que tu as un énorme trou dans le CV. Même si pour toi, tu n'as pas un trou, mais tu n'as que du positif. Tu as appris beaucoup de choses, mais pour l'employeur, c'est pas du tout pareil. Du coup, tu retournes chez tes parents à 35 ans à l'époque, ouais. Tu trouves un travail alimentaire que tu aimes pas trop. Tu emmagasines l'argent, tu achètes un véhicule et tu te barres.
Voilà. Tu fuis. Non, c'est pas de la fuite. C'est juste repartir pour de meilleures aventures.
Mais toi, tu l'as vécu de la même manière. Donc, vous êtes rentrés ensemble et tous les deux chez vos parents.
On est allés chez mes parents parce qu'en plus, on avait laissé notre chat pendant 3 ans. Ça devait être qu'un an. Hein. Merci maman, merci papa. Donc, impossible de retourner chez ses parents parce qu'ils avaient aussi un chat. Ils s'entendaient pas. Donc, on a vraiment fait toute l'année Covid chez mes parents à moi. Et je l'ai heureusement bien vécu parce que j'avais mes parents, mais en même temps très mal vécu parce que forcément nos parents ils sont contents de nous voir et on les aime de tout notre cœur, mais ils nous infantilisent aussi et c'est normal. Mais alors que nous on a vécu vraiment comme des adultes, hein, très loin et c'est pas évident cette période, on en parle peu, mais on était contents. Au début forcément ça marche très bien, mais après on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes rythmes, qu'on n'a pas forcément les mêmes envies et puis voilà, c'est pas si facile que ça, même si en même temps il y a beaucoup d'amour. Donc ouais, pas dingo. Mais on était à deux et c'est là qu'on trouve franchement qu'on a eu de la force.
C'est notre force d'être à deux, ouais.
Ouais. Absolument. Et ça a forcément renforcé aussi nos liens parce que quand on voit tous ceux qui ont dû rentrer où ça a été difficile, qui se sont retrouvés seuls, je me dis que franchement ils ont beaucoup de courage et ils ont une force mentale incroyable. Nous à deux ça va en fait, on pouvait toujours se remémorer les bons moments et se dire t'inquiète, on a vécu pire, on était bloqués dans le bush en panne, sans électricité, sans eau et puis sans internet, donc ça c'est pas grave en soi, c'est juste de la solitude humaine, mais c'est pas la fin de la vie quoi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage.
Regarde ailleurs.
Chemin le plus court pour se découvrir soi.
Et c'est là où donc naît la suite de l'aventure. Cette fois, c'est avec un camping-car aménagé, quoi. Donc là, c'est voilà, on se rend compte que le retour en Alsace, c'est pas forcément évident. Le mouvement vous manque. Et donc là, vous trouvez Bubble.
C'est ça, tout à fait, ouais. Bubble, on l'a trouvé en Normandie, c'est-à-dire qu'on est allé en train avec l'idée d'acheter un véhicule qu'on ne connaissait pas et qu'on n'avait pas eu. Donc c'était littéralement qui tout double, quoi.
Mais là, l'idée, c'était quoi quand vous partez en Normandie pour l'acheter ? C'était de vivre dedans et se balader en France, partir en Europe ? C'était quoi l'idée de ce projet-là ? Donc j'entends que c'est pas évident de trouver du boulot ici. Donc il faut le créer ou comment on fait ?
On l'a peut-être pas expliqué, mais c'est vrai qu'en fait, quand on s'est retrouvé pendant un an chez mes parents, on avait pris 2 boulots d'intérim. En se disant, on verra. En parallèle, on avait créé nos micro-entreprises, mais impossible de les lancer en cette période de crise où tout le monde serrait la ceinture. Et effectivement, on a revu des amis qui sont dans les Vosges et qui ont un vieux camping-car pareil que nous, avec Capucine des années 80. Et ils nous ont dit, non mais les gars, nous on revient du Cap Nord. Ils avaient fait ça en 2019. Ils disent, c'est génial, franchement, on vous conseille vraiment de faire l'Europe avant de partir en Thaïlande, puisqu'on devait s'expatrier de base en Thaïlande. Et nous, du coup, on s'est dit, bon, bah, écoute, on va pas rester éternellement chez nos parents. Personne voudra de 2 intérimaires post-Covid, 3 ans à l'étranger pour avoir juste un appart. Peut-être que le mieux, c'est de reprendre un van et de partir finalement découvrir effectivement cette Europe, cette France. Et on a bien aimé la configuration de leur camping-car, en fait, ce qui nous convenait. On savait ce qu'on avait manqué dans le fourgon en Australie. Les toilettes, la douche, en extérieur, ça va dans un pays où il fait chaud. Mais la France, on sait que c'est pas évident. Donc on savait qu'on voulait au moins cette base-là, un lit qu'on n'a pas besoin de faire tout le temps. Et du coup, on s'est dit, ouais, écoute, on cherche les camping-cars anciens. Comme ça, on le retape à la manière d'un fourgon. On casse tout, on refait. Ça va être notre maison. Le temps qu'il faudra jusqu'à ce qu'on puisse repartir. Et finalement, ça fait 4 ans qu'on est dedans, quoi. Nous, on voulait un grand espace de vie pour pouvoir y vivre si on part quelque part où il fait froid, où il pleut. Ouais, c'était ou fourgon ou camping-car Capucine. Et c'est le camping-car Capucine qui est rentré dans notre budget.
Pour la partie modèle économique, on a créé nos deux micro-entreprises. Et j'ai lancé ma boîte d'audiovisuel, du coup, de vidéaste, de monteur et de pilote de drone pro.
Ce qui permet de bosser un peu n'importe où et d'être surtout dans le mouvement.
Exactement, le fait d'être mobile me permet de trouver des clients et d'avoir des prestations un peu partout en France.
Donc toi, il fallait que tu trouves aussi quelque chose qui te permette de bosser de partout. Il n'était pas question que l'un se mette à bosser dans une boulangerie et soit sédentaire et que l'autre puisse être nomade. Donc il fallait aussi trouver une manière de continuer à vivre l'aventure et le chemin ensemble.
En fait, en même temps qu'il a créé sa boîte de pilote de drone, moi, je me suis mis à mon compte. dans le marketing, parce que voilà, c'est mon diplôme, je suis diplômée en marketing, et j'ai juste suivi une formation supérieure, enfin en plus, sur le web, parce que quand moi j'ai passé mon diplôme, le web c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Donc j'ai suivi une formation pour adapter en fait les études de marché qu'on nous apprend à des audits web, et aujourd'hui du coup je fais ça. Et quand on est parti, c'est vrai qu'on s'est tout de suite rendu compte que c'était plus facile aussi pour lui pour travailler. Parce qu'en fait, on était là où il fallait. On va quelque part et finalement, on trouve des clients ou on trouve une annonce et on peut y être le lendemain. Alors que c'est vrai que si on serait resté en Alsace, peut-être qu'on serait vite découragés tous les deux à trouver des clients. En tout cas, ça a été le cas pendant la période Covid où on est resté en Alsace et on a fait de l'intérim, on n'a pas eu de clients, quoi.
Donc là, vous êtes nomade en France.
On est nomade en France, ouais. Ouais, c'est ça.
Et vous allez là où vous trouvez, là où tu trouves du boulot, quoi. C'est comme ça que vous allez déterminer les mouvements géographiques.
Alors oui et non. En fait, c'est assez fou, mais depuis 2 ans, on a créé une association. Je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant.
Ok, bon bah on va parler de l'association là. En route pour demain, on a un flyer devant nous sur la table. Action de prévention pour un road trip durable. Qui c'est qui a envie de nous raconter un petit peu cette histoire là?
Que dire. En route pour demain, il est né d'une.
Non, déjà pour bien comprendre, donc là en route pour demain, vous êtes dans le camping-car, dans Bubble, ouais. C'est ça, sur les routes de France, dans l'envie d'être nomade, ouais. Et vient cette idée de créer une association.
Devient l'idée parce que c'est compliqué. On roule en France pour travailler et à des endroits on n'arrive pas à se garer. On va visiter un site historique et on se prend une amende. On veut aller au marché et il n'y a pas d'endroit pour des véhicules aménagés. On va dormir quelque part et on se fait embêter. Et en fait, on s'est dit, mais c'est pas possible. On va dans une office du tourisme, encore un truc tout bête, mais il n'y a rien qui nous explique comment accéder à certains endroits. Parce qu'un véhicule aménagé, encore une fois, ce n'est pas une voiture, c'est plus large, c'est plus haut, c'est plus long. Et on s'est dit, bah, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Donc au début, on a commencé à échanger, puisque comme on a cette proximité avec... on allait dans les festivals en tant que visiteurs, etc. On avait l'occasion de rencontrer d'autres personnes, d'échanger. Et on s'est rendu compte qu'on avait tous les mêmes problématiques. Et c'était trop bizarre, parce qu'il y avait de plus en plus de monde qui voulait des vannes, de plus en plus de monde qui voulait faire du camping-car. Et on s'est regardé avec Steve, on s'est dit, mais à un moment donné, on va arriver à un point de saturation, sauf que c'est pas bon pour nous. Nous, on a besoin d'avoir encore accès, on travaille en roulant, donc il faut qu'on continue à pouvoir faire du nomadisme. Et on s'est dit, on va partir. Mais vraiment, hein, de base, on s'était dit, on va arrêter. C'est bon, on a fait les frais, ça fait 2 ans qu'on tourne en rond, on va partir sur la route de la soie. Et je ne sais pas pourquoi, ça arrivait peut-être au bon moment, mais on a été contacté par le Salon du véhicule de loisirs à Paris pour faire des conférences sur le road trip éco-responsable. De base, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est lié au fait que j'en parlais beaucoup sur les réseaux à ce moment-là et sur le blog, mais ils ont voulu qu'on aborde ce sujet. Donc on est allé là-bas, ça devait être que 3 jours, finalement on est resté 1 semaine. Et à la fin de la semaine, on s'est retrouvés sur le plateau TV de 20 minutes TV Île-de-France pour parler, comme là ici, là, de nos projets, d'où on venait, pourquoi on faisait cette conférence. Et c'est parti en débat avec le responsable de la communication du VDL. Et puis nous, de toute façon, on n'avait rien à perdre. Donc on a dit vraiment ce qu'on ressentait sur les routes, que ça n'allait pas, que de toute façon, ça allait être un marché qui allait arriver à point de saturation, que c'était qu'une tendance, que c'était beau de voir des gens vivre la liberté, mais que la liberté, elle était ailleurs. Elle était dans l'expérience, mais en France, on ne pouvait plus vivre d'expérience. C'était que du parking. Et en fait, on a décidé pendant 1 an, donc on a créé rapidement les Manala Eco-Voyageurs en se disant bah, c'est peut-être la chance de changer les choses en France. Mais vraiment avec cette conviction profonde qu'on pouvait tout changer parce qu'une grande marque nationale, internationale même, soutenait nos actions et y croyait. En échangement, on sait maintenant qu'eux, ils ont aussi un peu cette problématique. Eux, ils vendent moins, tous vendent moins aujourd'hui parce que justement, il y a moins d'accès. Donc les gens en veulent moins, veulent tous passer à des petits gabarits. Mais les petits gabarits, un jour aussi, vont arriver à saturation, les petits vannes. On voit même des Twingo aménagés parce que tout le monde essaye de passer, en fait, sous les barrières de hauteur. Et voilà, quoi.
Mais je veux bien que tu nous parles de cet aspect-là parce que pour vous, c'est une évidence parce que vous vivez l'expérience et vous vous retrouvez face à ces problématiques d'accès. Mais moi, j'en ai pas forcément conscience. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France? Au contraire, j'ai eu l'impression que c'est l'inverse, qu'il y a une explosion de la van life, que tout le monde veut s'acheter un fourgon, que tout le monde veut vivre sa meilleure vie en allant se poser au bord de la plage et pour pouvoir profiter des plus beaux paysages partout.
En fait, t'as pas mal d'arrêtés qui naissent un peu partout et t'as de plus en plus de barrières de hauteur aussi. Tu peux voir que sur tout le littoral français, à part en Bretagne, il y a pas mal de barrières de hauteur, les 2,20 m, où tu peux pas te stationner en fait.
Donc en fait, c'est de plus en plus réglementé. Quand tu achètes aujourd'hui un fourgon aménagé ou un camping-car, tu ne fais plus ce que tu veux, comme c'était le cas peut-être dans les années 80 ou 2000, je sais pas. À quel moment ça a commencé à changer? À quel moment il y a eu une réflexion posée sur la surfréquentation, le surtourisme des vannes et des camping-cars?
Je pense que c'est après, pré-Covid. Je pense que c'est vraiment là où ça a explosé.
Il y a des chiffres qu'on a pu voir vis-à-vis de l'association, parce que maintenant on a accès à pas mal de stats et tout, qui montrent qu'il y a plus de 10% d'utilisateurs de véhicules homologués en France chaque année. Et ça a démarré à partir du moment... Alors la Covid, ça a tout explosé, hein, bien sûr, mais ça a vraiment démarré à partir du moment où il y a eu l'essor des réseaux sociaux. À partir du moment où tout le monde a vu qui l'utilisait et comment l'utilisait, il y a eu cet essor, parce qu'avant c'était peut-être un peu ringard ou c'était peut-être un peu vieux jeu. Mais maintenant, en fait, c'est hyper tendance parce que tout le monde en parle.
Faire des vacances ou de voyager en véhicule aménagé.
Que ce soit.
Aujourd'hui, tu as 2% du foyer français qui possède un véhicule homologué. Quand je te dis homologué, on exite les caravanes, exite les vannes où tu fais vite fait 2-3 planches et tu le passes pas à la VASP. Donc, c'est-à-dire, et tu parles même pas des étrangers. Donc en fait, sur le sol français, tu en as, je sais pas, 2 millions voire 5 millions de véhicules par an qui circulent. Et c'est exponentiel tous
chaque
les
année,
ans.
Hein. Donc forcément, c'est logique, après on régule ce flux touristique, parce que si on a trop, ça peut poser problème aussi quand même au niveau de la biodiversité, mais aussi au niveau des habitants. C'est tout à fait logique. Mais nous, on est parti en tout cas de cette conviction profonde qu'il fallait quand même changer les choses, parce que trop réguler, c'est aussi se mettre une balle dans le pied au niveau de l'économie.
Donc l'idée, c'est quand même de voir comment est-ce que tout ce public, hein, toute cette population en van et en camping-car peut devenir une ressource pour certains territoires. Exactement. Et certaines régions, quoi.
En fait, on dit tout le temps que ça doit être intéressant économiquement, mais aussi écologiquement. À partir du moment où on remplit ces deux critères, une destination a tout intérêt à nous prendre. Et pour ça, il faut qu'on travaille tous ensemble. Il faut que les voyageurs aient leur part de responsabilité en faisant les choses correctement, en respectant l'habitant, en respectant la faune, en respectant la flore, en respectant aussi les lieux, mais aussi le territoire, pour qu'ils proposent des aires d'accueil, si c'est public, agréable, pour que les gens aient envie aussi de consommer et d'y rester et de faire les choses bien, mais aussi les acteurs du marché qui vont proposer les véhicules, les aires, tout ce qui est vidange et tout ça. Donc ça fait énormément de gens à voir, avec toutes les problématiques derrière. Hein. On n'en parlait pas moins qu'hier, mais aujourd'hui il y a des gros problèmes avec par exemple les toilettes sèches, qui a l'air d'être une super bonne idée, mais aujourd'hui c'est la pire idée au monde. Mais en vrai, c'est vraiment un gros problème. Le toilette sèche, c'est une mauvaise idée tant qu'on n'est pas prêt à collecter et à revaloriser les déchets. Et c'est toutes ces problématiques-là qu'on va travailler aussi avec les territoires.
Alors, ce que je trouve rigolo en vous écoutant, c'est que vous étiez parti pour faire la route de la soie et vous vous retrouvez dans des problématiques bien plus importantes et qui vous dépassent quelquefois, parce qu'on est dans des enjeux presque politiques.
Ah, absolument. En fait, on veut faire en sorte que ça fonctionne. Si maintenant, demain, on voit que c'est bloqué et qu'on va toujours tomber sur des bloquants qui vont faire en sorte que ça ne se passe pas comme on veut, on va lâcher l'affaire et on va aller sur la route de la soie.
Et quand vous reprendrez la route de la soie, je vous embêterai avec ma question, mais se posera la question du modèle économique. Ce sera comme à l'époque de l'Asie, ça, non?
Ah oui, bah ouais. on se l'est pas encore posé. En vrai, on essaye un maximum. En vrai, là, aujourd'hui, on est à fond dans l'association, donc c'est que du bénévolat. Steve travaille énormément et moi, je travaille énormément gratuitement. Donc, tu vois, pour l'association, pour le moment, ça nous convient, parce que pour tous ceux qui font de la van life, on le sait tous, on a moins de contraintes financières sur la route. Donc, d'une manière générale et d'un point de vue budget, pour le moment, ça colle. C'est vrai que quand on va commencer à partir sur la route de la soie, il va falloir peut-être que je reprenne mon activité. Mais on réfléchit déjà peut-être à faire évoluer tout ça aussi. Ça fait quand même 4 ans qu'on fait ce qu'on fait. On se rend compte qu'il y en a de plus en plus qui le font aussi. Et on ne sait pas trop. On va certainement garder nos métiers respectifs, mais les faire évoluer pour l'adapter.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage.
Regarde ailleurs.
Chemin le plus court pour se découvrir soi.
On a 4 ans dans le camping-car. Qu'est-ce que ça vous a appris de vivre dans un petit espace comme ça, restreint et à deux avec un chat? En quoi est-ce que... Quelles sont les leçons de vie qu'on peut tirer hein, du nomadisme, du mouvement et du minimalisme?
On apprend à relativiser, je dirais. On prend moins les choses à cœur. Par exemple, ça peut arriver, hein, il faut rester très réaliste sur ce mode de vie, qu'on ne va pas avoir d'entrée d'argent pendant quelques semaines. Mais en fait, on relativise énormément parce qu'on vit différemment. On a besoin de moins de choses. On sait gérer le budget, c'est-à-dire qu'on ne va rien acheter de superflu parce qu'il n'y a pas la place. Donc en fait, nos dépenses, elles sont tout autres. On a appris à vivre ensemble aussi mieux, parce que même si on vit ensemble depuis 18 ans, c'est quand même très différent dans un petit espace. Et même si on a vécu sur la route en Asie en sac à dos, c'est encore différent en camping-car continuellement à aller bureau, parce qu'on a vraiment nos bureaux dans le camping-car aussi. Travail, maison, vie privée, ça se passe vraiment dans 10 mètres carrés, quoi.
Je pense qu'on devient plus tolérant envers l'autre. Et de toute façon, t'as pas le choix. Parce que tu peux pas faire une scène et être fâché pendant 10 heures dans un petit espace réduit. C'est nul, tu peux pas. Donc du coup, je pense qu'on devient plus patient et on sait respecter les choix et le temps de l'autre. Quand l'autre a un besoin d'un temps pour soi-même, eh ben, tu le laisses tranquille. Et du coup, tu deviens plus patient et plus à l'écoute de l'autre.
Ça, c'est sur la partie vie commune, vivre en couple dans un espace restreint. Après, je me pose aussi la question de l'idéalisation. Hein, des fois, tu disais les réseaux sociaux, on voit les vanlifers qui vivent leur meilleure vie dans des beaux paysages. Donc souvent, on a tendance aussi à idéaliser cette vie-là. Je veux bien qu'on parle de cette partie-là parce qu'il y a peut-être là, on se rencontre en été, il fait beau, il fait chaud, les journées sont longues. Mais quand tu vis dans un van, qu'on est au mois de novembre, qui fait nuit à 17h et qui fait dégueulasse plusieurs jours de suite, c'est pas la même du tout, quoi.
Ah bah oui, non mais les réseaux sociaux, c'est en vrai une plaie générale. Pourtant on est dessus, hein. C'est assez bizarre. Ouais, c'est à double tranchant. On le fait, mais en même temps on le critique beaucoup. Alors nous, si on le fait, et c'est très rare hein, qu'on montre nos vies dessus, mais c'est, je pense que l'avantage, il faut utiliser les réseaux sociaux vraiment comme un outil pour déjà au mieux dire la vérité, hein, c'est toujours mieux quand même d'être authentique. Mais nous, on l'utilise aussi pour créer du lien. Ça nous arrive beaucoup de mettre en avant des lieux qu'on a aimés, mais vraiment parce qu'on les a vraiment fortement aimés, pour donner des envies à d'autres de sortir des sentiers battus. Mais des sites très touristiques, c'est très rare qu'on les met en avant parce qu'en fait, c'est pas besoin, en fait, ça existe déjà, quoi. Mais idéaliser la vie en van, bah ouais, malheureusement, ça c'est un gros fléau aussi. Et je pense que c'est pour ça que c'est devenu tendance. Aujourd'hui, on voit des couples s'enlacer avec la lumière du coucher de soleil, ils se font un béco et tout va bien. Et sur leur bio, il y a marqué 6 mois qu'on est sur les routes, 1 an qu'on vit ensemble. Et là, tu te dis waouh, c'est un compte qui va peut-être pas durer. En fait, les gens se rendent pas compte combien c'est difficile de vivre en couple sur la route H24 et de travailler ensemble. C'est vraiment idéalisé, hein, parce que même si nous, là, on a l'impression que tout va bien, on l'idéalise peut-être en réel, mais en vrai, il y a des moments où, ouais, on se crie dessus, on se dit, purée, le camping-car à côté, il va penser qu'on est en train de se frapper l'un l'autre. Mais parce qu'en fait, on est humain, on a des émotions, parfois on implose de l'intérieur, il faut que ça sorte, tu vois. Et c'est normal, mais en fait, c'est totalement humain. Et ce serait malsain de dire le contraire. À un moment donné, il faut laisser la personne s'exprimer, même si elle a besoin d'hurler, ben, ça fait partie des émotions humaines. Et c'est dommage, effectivement, qu'on voit que ça. Nous, on préfère carrément pas montrer notre vie privée, en fait. C'est vrai qu'on monte même pas des bisous, des trucs ou ce genre de choses, parce qu'en fait, c'est idéaliser le couple en van et ça n'a pas de sens. C'est pas parce qu'on est en van qu'on est plus heureux. C'est juste qu'on est en fait en van et on arrive à être plus ensemble. Et oui, on arrive à vivre mieux ensemble, mais ça veut pas dire qu'on est plus heureux. Et tu le dis, à 17h en hiver, il pleut. Qui a envie d'être enfermé H24 quand il pleut, qu'il n'y a plus d'électricité parce qu'on est au solaire, à se demander, bon ben, qu'est-ce qu'on fait? On est sur nos téléphones, il reste 10% de batterie, ou on fait un jeu de cartes? Voilà. Non, on ne peut pas idéaliser ce genre de vie. Au contraire, il faut rester réaliste.
Du coup, tu voyages pour toi-même?
Donc, ce qui reste dans le cœur, c'est finalement ces rencontres en humanité qu'on va faire sur les routes du monde. Merci, merci Steve, merci Audrey. Merci à tous les deux.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.